Bonjour mesdames, bonjour messieurs, on va commencer, on va essayer de se réchauffer avec, en regardant à l'intérieur de la Terre, si j'ose dire. Et donc aujourd'hui, la dernière fois je vous ai présenté un peu un historique de la découverte des tremblements de terre profonds, ainsi qu'un aperçu de où on les trouve, dans quels endroits autour du monde. Et j'ai commencé à parler de la minéralogie du manteau qui va être importante pour essayer de les comprendre. Et donc, je voudrais commencer par reprendre un peu les bases de ce qu'on connaît sur la structure. Tiens, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Structure interne de la Terre. Bon, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. OK. Alors, on connaît déjà depuis assez longtemps, depuis la première moitié du XXe siècle et avec des améliorations au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la structure moyenne en profondeur dans la Terre grâce à l'étude des ondes sismiques, des temps de propagation à l'intérieur, des temps de propagation des différentes ondes sismiques, ainsi que des fréquences des modes propres de la Terre. Et donc ça a donné lieu à des modèles qui présentent donc les variations de la densité, de la vitesse des ondes S et de la vitesse des ondes P à l'intérieur de la Terre, donc depuis la surface jusqu'à la profondeur. Celle-ci augmente en moyenne et donc avec en particulier la région qui va nous intéresser, c'est la partie supérieure, ce qu'on appelle le manteau supérieur, qu'on définit de manière, disons, classique, allant de 0 à 660 km de profondeur. Et vous voyez que cette région est un peu plus chahutée, il se passe plus, il y a des discontinuités dans cette région, dans la structure élastique, donc qui correspond à des changements dans la structure cristalline et du matériau. Alors, la sismologie nous donne les paramètres élastiques. On confronte ça avec les informations produites par les expériences à haute pression et haute température sur les minéraux pouvant exister dans le manteau et dans la Terre. Et donc, on sait déjà, c'est bien établi, que le manteau est formé de silicates et le noyau pratiquement en majorité de fer, un alliage de fer, avec notre graine solide. Donc, nous allons nous concentrer sur cette région-là. Et donc, j'ai commencé à parler de ça la dernière fois en vous indiquant que le manteau supérieur, très particulièrement, est formé en grande partie, plus de 50% d'olivine. Et cette olivine, qui donc fait partie des roches, qui est un composant important puisqu'elle constitue en fraction de volume plus de 50%. Ici, vous avez donc ce dessin qui est un peu... beaucoup de choses dessus, en fraction de volume et en fonction de la profondeur dans la Terre, vous avez les différentes proportions de phases donc minéralogiques dans le manteau. Et donc, on distingue le manteau supérieur, ici, jusqu'à 670 km de profondeur, dans lequel... la phase olivine, il y a ensuite le grenat, le clinopyroxène et l'orthopyroxène qui constituent les autres phases majeures dans le manteau supérieur. Mais l'olivine donc, subit des transformations de phase, la première à 410 km, la seconde vers 520 km de profondeur et la troisième à environ 660 km de profondeur. Ce sont des transformations de phase qui correspondent à l'augmentation de la température et de la pression, mais surtout à des changements de structure cristalline vers des structures plus compactes, donc dues à l'augmentation de la pression. Et donc, il y a le manteau supérieur. Le manteau inférieur, on n'en parlera pas beaucoup, mais peut-être un peu. Les séismes les plus profonds qu'on observe semblent coïncider, mais pas tout à fait, avec cette discontinuité de, qui est en moyenne de 660 km, mais qui peut fluctuer de plusieurs dizaines de kilomètres suivant l'endroit où on se trouve, et en particulier suivant qu'on est dans des courants chauds ou des courants froids. Je voulais simplement, je parlerai plus du manteau inférieur, mais je voulais simplement indiquer ici. Ah oui, donc la zone de transition, c'est la zone dans laquelle l'olivine donc subit ses transitions de phase. Et simplement pour noter que la pérovskite, qui est donc le composant principal, la pérovskite de magnésium, qui est la composante principale du manteau inférieur, a récemment été trouvé donc sous forme naturelle dans un météorite et donc en Australie, et il lui a été donné le nom de Bridgemanite pour célébrer Bridgman qui a eu le prix Nobel en 1946 je crois pour ses travaux donc à haute pression en de la physique de haute pression. Donc les noms, c'est soit olivine, c'est un nom générique de la structure, une structure orthorhombique. Ensuite, les transformations sont dans des formes plus compactes de type cubique. Et à environ 660 km de profondeur, à 23 gigapascales de pression correspondant à la température moyenne dans le manteau à cette profondeur-là, cette olivine se décompose en oxyde, donc un mélange d'oxyde de magnésium et de fer, et en structure de pérovskite, donc qui a maintenant le nom de bridgmanite, avec en plus une certaine proportion de pérovskite de calcium. Donc, concentrons-nous dans cette région-là. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on va regarder dans les zones de subduction où on trouve la majorité des tremblements de terre profonds. Donc, nous avons... nous avons donc, je vous ai déjà montré cette figure, il faut se représenter cette plaque de subduction qui plonge à l'intérieur de la Terre, et elle va, en plongeant, elle va rencontrer les différentes zones de différentes pressions et différentes températures dans le manteau. Et donc, encore une fois, alors, je répète simplement qu'à 400 km, 410 km, l'olivine se transforme en structure plus compacte, celle du spinel. Ensuite, il y a, ça, c'est une réaction exothermique avec une pente de Clapeyron positive. Donc la pente, quand on dessine en fonction de la pression et de la température, à quelle pression et température a lieu cette transition de phase, la pente est positive. Et à 520 km, cette structure spinel qui s'appelle Wadsleyite se transforme en Ringwoodite. Là aussi, c'est des noms. Vous reconnaissez le nom de Ringwood, qui est qui a proposé le modèle de la pyrolite, hein, le modèle de la composition du manteau supérieur. Cette discontinuité a moins d'effet sur les vitesses sismiques. C'est aussi une discontinuité qui dégage de la chaleur avec pente de Clapeyron positive, et celle de 660-670 km, donc la décomposition en pérovskite et magnésio-vestite ou ferro-périclée, ça dépend des proportions du magnésium et de fer, est en fait une réaction endothermique donc qui absorbe de la chaleur et dont la pente de Clapeyron est négative. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut avoir à l'esprit d'un point de vue dynamique et d'un point de vue de ce qui peut se passer à l'intérieur de la zone de subduction. Notons que cette limite, qui correspond donc à la définition classique de la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, correspond à une augmentation de densité assez importante, de l'ordre de 10%. Et là, ce qui est indiqué ici, c'est des changements de volume. Donc il y a des diminutions de volume avec donc compactification à chaque fois qu'on passe qu'il y a une de ces transitions de phase. Alors donc ça, c'est la zone de subduction quand elle plonge dans le manteau. Il y a encore des détails ici que nous verrons plus tard. Mais comment ça commence? Alors la plaque qui va finir par redescendre dans le manteau, elle est formée sur une dorsale Par exemple, la dorsale Est-Pacifique, ça pourrait être la plaque Pacifique, et ici la plaque Nazca, avec ici l'Amérique du Sud, par exemple. Et donc, vous avez la convection mantellique qui va faire remonter la matière sous les dorsales. Avec la remontée de la matière, à cause de la décompression, il va y avoir fusion partielle et donc séparation d'une partie donc fluide. Ça, je préfère ce dessin-là qui montre un peu mieux la façon dont ça se passe. C'est pas toujours facile de trouver les schémas appropriés. Donc, on va avoir une séparation du fluide qui va donner, en se solidifiant, en se refroidissant, la croûte océanique formée de basalte. Donc, c'est ce qu'on appelle le MORB, le Mid-Ocean Ridge Basalt, le basalte formé sous la dorsale. Et le résidu de cette fusion partielle va être composé de ce qu'on appelle une roche qu'on appelle la Hartzburgite. Et en fait, quand on regarde en profondeur, donc, la croûte sera d'environ 5 km quand elle arrivera en zone de subduction, et la lithosphère environ d'épaisseur de 80 à 100 km, donc partie rigide au-dessus de la partie convective du manteau. Et il y a encore une structure plus fine avec une partie inférieure de la lithosphère qui est qui a subi moins de fusion partielle, et la roche correspondante s'appelle l'herzolite. Donc nous reviendrons en plus de détails à la minéralogie des plaques de subduction quand elles s'enfoncent dans le manteau. Là, je voulais juste vous attirer sur votre attention sur le fait qu'il y a une croûte et une lithosphère de composition différente. Une autre chose à remarquer, c'est qu'en arrivant ici dans la zone de subduction, cette croûte va aussi entraîner des sédiments et aussi entraîner de l'eau. Donc elle va s'hydrater et ça va jouer un rôle important, en particulier pour l'existence de volcanisme en arrière des zones de subduction. Notons encore une fois que ce qui se passe, pour revenir en arrière, ce qui se passe, qui est indiqué un peu mieux ici, c'est que donc les nouvelles plaques se forment ici, le matériau se refroidit et se solidifie et pousse, et le nouveau matériau repousse les plaques de plus en plus loin, et en s'écartant, les plaques vont se refroidir et la lithosphère va s'épaissir. Alors, un calcul assez classique permet de déterminer, un calcul assez simple, de déterminer la variation de l'épaisseur de la lithosphère en fonction de l'âge de la plaque. Donc l'âge à la dorsale, c'est 0 million d'années, et plus la plaque s'éloigne, enfin le morceau de roche qui s'éloigne de la dorsale est de plus en plus vieux et la roche va se refroidir. On mesure les flux de chaleur au fond des océans. On voit un flux de chaleur très important au-dessus de la dorsale. Il diminue quand on s'en éloigne. Avec les données qu'on a de flux de chaleur et en supposant un modèle simple de refroidissement de demi-espace, on peut déterminer que la lithosphère s'épaissit au moins jusque vers 80 millions d'années d'âge en moyenne dans le monde entier, dans tous les océans. Elle s'épaissit en fonction de la racine carrée de l'âge, qui est en résolvant les équations de la conduction dans un demi-espace donc refroidi par l'eau. Alors donc nous avons notre lithosphère qui s'épaissit. À partir d'un certain temps, d'un certain âge, en fait, cette relation en racine du temps s'aplatit, ça ne continue plus. Et donc on atteint une épaisseur de lithosphère d'environ 80 à 100 km, dont on sait décrire de manière simple la structure thermique. Et donc ces structures thermiques de nos jours deviennent de plus en plus complexes puisqu'on y ajoute toutes sortes de conditions aux limites et les considérations dynamiques, mais elles permettent d'avoir une idée des températures qui règnent à l'intérieur de la plaque quand elle plonge. Et donc là, oui, je représente ce qui se passe au moment où la lithosphère froide, refroidie, donc plonge dans le manteau. Donc on regarde ça de plus près et on s'aperçoit que c'est un modèle parmi d'autres, mais on voit que les températures augmentent assez rapidement à l'intérieur du manteau de la Terre. On voit qu'en dehors de la zone de subduction, les températures moyennes à 100 km atteignent environ presque 1300-1400 degrés Celsius. Mais dans la plaque, puisque la plaque est rigide et que le transfert de chaleur se passe essentiellement par conduction, nous allons avoir un centre de la plaque qui va rester plus froid que la moyenne. Et vous voyez que même ici à 100 km de profondeur et même à 200 km de profondeur, vous pouvez avoir des différences de température de 500 à 600 degrés entre l'intérieur ou le centre de la plaque et le manteau ambiant. Alors, revenons. Alors ici, sont représentés schématiquement les séismes de profondeur relativement superficielle et les profondeurs intermédiaires. On peut comprendre, comme je vous ai expliqué la dernière fois, l'existence de sismicité dans les premiers 50 km de profondeur par la rupture dans des milieux cassants. Mais comme je vous ai expliqué, le domaine de la fracture cassante est limité en pression et température correspondant à pas tellement plus que 50 km de profondeur, étant donné les températures, ici la variation de température en fonction de la profondeur dans la Terre et ce qu'on peut supposer des vitesses de déformation à l'intérieur du manteau, qu'on ne connaît pas très précisément, mais qui sont sans doute plus proches de 10 puissance moins 15 par seconde de déformation, donc vitesse de déformation, que de 10 puissance moins 7 par seconde, qui est ce qu'on peut atteindre expérimentalement de nos jours. Alors donc, la question... Pour les séismes ordinaires, alors ce que je vais appeler les séismes ordinaires, ça va être les séismes de profondeur ordinaire, de profondeur inférieure à 50 km. J'éviterai le mot de séisme crustaux, puisqu'on trouve aussi dans certains endroits des séismes qui sont en dessous de la limite entre la croûte et le manteau, mais qui sont encore à des profondeurs raisonnables du point de vue de la fracture. Donc pour ces séismes-là, on peut consulter par exemple le livre de Scholz écrit en 2002. Dans quelles conditions se produit-elle ? La possibilité de fracture dépend de deux choses. Elle dépend de la contrainte de cisaillement, qu'on va appeler taux appliqué, et de la pression de confinement, la pression ambiante. Donc, disons, en première approximation, la pression hydrostatique sigma H. Et pour une pression ambiante sigma H donnée, une fracture peut se produire lorsque la contrainte de cisaillement dépasse une certaine valeur, donc taux F, qui est la contrainte de fracture, qui est donnée par ce qu'on appelle le critère de Coulomb, qui est écrit comme taux 0 plus un coefficient de fracture mu multiplié par la contrainte ambiante, et avec ces deux facteurs qui dépendent de la roche. Donc, bon, pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, c'est ce qu'on dessine dans les fameux diagrammes de Moore. Et lorsqu'une faille s'est développée, la contrainte critique doit satisfaire à la loi de Bayerly, où on remplace simplement l'expression par des expressions faisant intervenir la friction, donc en particulier le coefficient de friction. Donc, deux facteurs qui interviennent, la pression donc dans le milieu et la contrainte de cisaillement appliquée. Alors, donc revenons un peu en arrière. En 1924, Griffith avait déjà proposé que la fracture se produit lorsque les fissures s'ouvrent sous l'effet de la contrainte de cisaillement. Et depuis, ce modèle a été modifié pour tenir compte de certains facteurs. Mais l'idée, c'est la suivante. C'est que vous avez donc une contrainte de compression maximale dans cette direction-là, la contrainte d'extension dans cette direction-là, et sous l'effet des contraintes appliquées, donc des contraintes qui peuvent être appliquées par la dynamique dans le manteau ou dans la croûte, vous allez créer des fissures qui vont s'ouvrir dans la direction de contrainte minimale, donc perpendiculairement à direction de sigma 1. Et ces fissures vont avoir tendance à s'élargir puisqu'on va avoir une concentration de contraintes d'extension donc au bord de ces fissures. Et donc, elles vont pouvoir s'élargir et se rejoindre. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une fracture, non microscopique, une fracture de taille macroscopique qui va s'orienter avec une direction qui sera plus ou moins dans la direction, enfin inclinée, mais pas trop par rapport à la direction de compression maximale. Donc ça, c'est le modèle, très simplifié, mais qu'on peut garder à l'esprit pour les tremblements de terre ordinaires, dans le domaine où la fracture est acceptable. Alors pourquoi ça ne marche pas pour les séismes intermédiaires et profonds ? C'est tout simplement que lorsqu'on arrive à des profondeurs importantes, de 100 km, pour donner une idée, la pression hydrostatique, donc la pression ambiante, sous l'effet du poids des roches, est déjà de 3 à 23 gigapascales. Par exemple, on peut faire un calcul tout simple, à 200 km, là, on va calculer ρgh, donc ρ étant la densité, c'est en ordre de grandeur, 3 à 10 puissance 3 kg par mètre cube donc, dans le système universel. G de l'ordre de 10 mètres par seconde au carré, et la profondeur h, ça va être 210 puissance 3 mètres, 200 km. Et donc, quand on fait ce calcul-là, on obtient 6 10 puissance 9 pascal, soit 6 gigapascal à 200 km de profondeur environ. Ça donne une idée. Et donc, puisque le critère de fracture, tel qu'il est écrit, implique que les contraintes de cisaillement pour avoir de la fracture doivent être du même ordre de grandeur, ce genre de contrainte serait énorme. On peut dire que c'est plus ou moins de nombreux ordres de grandeur plus grands que ce qu'on estime pouvoir être raisonnable à l'intérieur de la Terre. Et donc, ce type de contrainte ne pourrait pas persister, donnerait lieu à de l'écoulement plutôt que de la fracture. Et donc, les séismes ordinaires, eux, c'était visible sur le schéma que je vous ai présenté avant, semble correspondre à des températures maximales de soit 600 degrés. Alors, si je regarde ce schéma tout simple, donc pas très précis, 600 degrés, on voit que c'est ici, et donc peut-être jusqu'à 100 km en poussant un peu, mais pas plus profond. Alors, donc, il a fallu proposer des mécanismes différents pour ces séismes plus profonds. Et donc la première chose à laquelle, enfin, On a pensé tout de suite, dès qu'ils ont été, documentés ou découverts, c'est les processus liés à cette transformation de phase qui en moyenne, se produit à 400 km de profondeur, la transformation de phase de l'olivine en structure spinelle, donc de l'olivine de structure orthorhombique en spinelle de structure cubique. Et donc la première idée, c'est que les séismes seraient provoqués par la transformation de phase elle-même. Mais la transformation de phase, elle implique un changement de volume, une implosion. Le volume diminue. Donc on aurait une implosion. Il faudrait qu'on ait une évidence que dans ces tremblements de terre, dans les intermédiaires, disons au profond, on ait un changement de volume. Donc on va voir qu'en fait c'est plus ou moins écarté. Enfin cette hypothèse est pratiquement écartée. Pas tout à fait, mais pratiquement. Par contre, on peut avoir aussi un autre processus qui est aussi lié à la transformation de phase, mais qui est plutôt une conséquence de la transformation de phase plutôt que la transformation de phase elle-même, et qui se produirait si on peut supposer que l'olivine peut exister dans un état métastable à l'intérieur de la plaque en subduction, c'est-à-dire que l'olivine puisse subsister à des profondeurs plus grandes que normalement, que dans le manteau ambiant. Alors un autre processus qui a été proposé, c'est des processus liés à la déshydratation des roches, qu'on appelle en anglais dehydration embrittlement, fragilisation par déshydratation. Je ne suis pas très sûre comment traduire ça en français. Et qu'on peut comprendre. Je vais parler de toutes ces hypothèses avec un peu plus de détails. Et puis et finalement, une troisième hypothèse qui est considérée, c'est celle d'une instabilité plastique en présence de contraintes de cisaillement. On en parlera plus tard. Et enfin, des processus liés à la présence de fluides qui, disons, se rapprochent de celles liées à la déshydratation, mais c'est pas forcément de l'eau. Alors, je vous rappelle, j'ai montré déjà ce schéma, c'est les statistiques. Combien de séismes par an il y a en moyenne dans le monde en fonction de la profondeur. Ce qui a été distingué ici, c'est la zone de sismicité de Kontonga-Kermadec, parce que c'est celle qui est la plus abondante en séismes. Et on peut faire des statistiques dans cette région sans rassembler dans le monde entier. Disons qu'on voit à peu près la même chose quand on fait une moyenne globale que quand on a fait uniquement sur Tonga-Kermadec, c'est que vous avez une diminution du nombre de séismes depuis la surface jusque vers 300 km de profondeur, qui est de diminution exponentielle, environ 10 puissance moins h par 120 km, où h est la profondeur, et ensuite un minimum, et puis de nouveau un pic de sismicité avec en particulier des très gros séismes vers la base de ce pic, entre 600 et 680 km de profondeur. Et donc, on peut penser, ça je l'avance tout de suite, que c'est ce vers quoi on se dirige actuellement, disons, dans les discussions actuelles, c'est qu'en fait, le processus qui donne lieu au séisme de profondeur intermédiaire, qui est cette région-là, et peut-être pas le même que celui qui donne lieu au profond, celui des séismes profonds. Ça, c'est une question ouverte, mais disons que c'est un peu l'ambiance actuelle des raisonnements appliqués. Alors, l'existence des transitions, donc encore un petit peu d'espoir, l'existence des transitions de phase dans l'olivine avait été proposée déjà en 1936. À la suite d'observations sismiques indiquant la présence de discontinuité de vitesse dans le manteau supérieur, ça a été beaucoup. Donc, sur la base aussi d'observations de transition de phase de la structure olivine, mais dans un analogue, dans une structure analogue à celle de la, du silicate de magnésium qui est l'olivine, et qui serait le germanate. Donc on remplace le silicium ici par le germanate. Et cette roche-là existe, ce minéraux-là existe à la pression ambiante sous deux formes cristallographiques, l'une qui est semblable à celle de l'olivine, une structure orthorhombique, et l'autre structure cubique plus dense. Hein. Donc à l'époque, on n'avait pas accès directement aux expériences dans l'olivine du manteau, dont les transitions de phase se produisent à beaucoup plus haute pression. Alors, ça a été confirmé depuis, en particulier par les travaux de Bridgman et ceux de Birch, dont un article très, classique sur la relation entre les transitions de phase dans l'olivine et les discontinuités du manteau a été écrit en 1951. Ceci dit, déjà en 1936, les premières suggestions sur un lien possible entre les séismes et les transitions de phase ont été proposées, et en particulier le concept que si on a des mouvements à l'intérieur du manteau, des courants ascendants et des courants descendants, il est possible que de la matière, soit apportée, descende en continuellement dans le manteau et donc subisse continuellement la transition de phase à l'endroit où ça doit se produire, aux conditions adéquates de température et de pression. Et donc, que ça pourrait donner lieu à des séismes. Alors, ce qui a un peu donné de confusion, c'est que Benioff, dont nous avons déjà entendu parler, observe, donc un sismologue à Californie, observe un mouvement précurseur à un sisme profond du Pérou qui avait eu lieu en 1761, et il va vite pour l'interprète vite comme étant dû à une implosion, due donc directement au changement de phase. Mais ensuite, il y a eu donc plusieurs séismes profonds importants, celui de Colombie de 1970 et un autre au Pérou en 1963, qui ont pu être étudiés de mieux en mieux, puisqu'on avait des enregistrements sismiques de plus en plus grande qualité. Et il y a eu cet article qui a beaucoup influencé les géophysiciens, c'est l'observation d'une phase compressive, donc une phase qui pourrait correspondre à une implosion, juste avant le séisme il s'agit du séisme de Colombie de 1970. 80 secondes, ils ont pu isoler cette phase 80 secondes avant la rupture principale. Donc ils ont proposé que c'était dû au changement de phase avec cisaillement induit dans la roche ambiante. Mais en même temps, dans les années 60, il a été proposé qu'en fait, si une transition de phase provoque un séisme, cette phase doit être déjà dans un état métastable. Sinon, cette transformation ne se produirait qu'à la vitesse permise par les variations de température et des pressions. Et il y a eu beaucoup de travaux sur la cinétique de ces transitions de phase, dont en particulier mon collègue Poirier ici a contribué dans les années suivantes. Mais en tout cas, on pensait que c'était possible dans les plaques en subduction. Si ça existe, ce serait possible dans les plaques de subduction où le centre de la plaque est plus froid que le reste du manteau. Alors donc, a suivi une phase intensive de recherche de composantes isotropes, donc retour au sismologue. Et la conclusion, c'est que les mécanismes des séismes profonds ne montrent pas de signes d'implosion. Pas plus que les séismes superficiels d'ailleurs. Les mécanismes sont similaires, je vais vous montrer des exemples. Et il y a d'autres arguments qui ont été aussi avancés contre cette hypothèse, qui est qu'on observe des ondes S, des ondes de cisaillement, et des ondes de volume de cisaillement de grande amplitude, qui est incompatible avec une implosion, parce qu'une implosion pure ne donnerait lieu qu'à des ondes de compression, qu'à des ondes P. pas d'onde de cisaillement. Alors, et puis un troisième argument qui est que les séismes profonds se produisent souvent au même endroit ou presque au même endroit. Or, on peut penser qu'une fois que la transformation de phase a été faite, on n'aurait pas lieu d'avoir de séisme au même endroit. Alors, je vais faire un petit aparté ou un petit, disons, rappel de comment on représente une source sismique. Dans une source sismique, il n'y a pas de, mouvement de matière. Il y a le déplacement d'un bord de la faille par rapport à l'autre, mais il n'y a pas de déplacement de la roche dans son volume d'observer. Et donc il faut un système de force qui annule ceci. Et donc on pense à un système soit un dipôle, donc deux forces opposées, dont la résultante est nulle. Si ces forces sont séparées, si l'origine de ces forces est séparée d'une distance d, vous allez avoir un couple de forces donc qui va créer une rotation. Il n'y a pas de rotation, donc ce qui a été on a pensé, c'est un double couple de forces qui permet d'avoir de représenter le déplacement, le champ de déplacement observé pendant un glissement sismique sur une faille équivalent. Donc, et vous voyez, dans ce cas-là, on n'a pas de rotation, on n'a pas d'extension, on n'a pas voilà. Donc un couple de forces qu'on appelle le double couple, enfin un double couple de forces. Et les doubles couples de force, il peut y en avoir dans différentes directions, en trois dimensions. Et donc, ça va permettre de définir... Un seul couple de force va être défini par une composante MIJ, dans un référentiel cartésien, qui définit l'orientation, donc dans la direction d'orientation et la direction de séparation, donc MIJ. Et donc, il en faut trois. En tout, il en faut six, mais comme il y a des symétries, on définit donc le tenseur des moments avec six éléments indépendants. Ceux qui sont sur la diagonale, c'est ceux qui correspondent au cas où les forces sont dans l'axe, hein, donc soit l'axe 1, soit l'axe 2, soit l'axe 3. Et M1-2, M1-3 et M2-3 correspondent au cas où les forces sont donc décalées et suivant l'axe dans la direction et du décalage. Donc vous allez en avoir comme ça en tout 6. Il y a 6 éléments indépendants par symétrie qu'on peut montrer par conservation du moment cinétique. Donc par exemple, si vous avez une faille, donc là je parle d'un séisme ordinaire, un séisme donc par exemple crustal, une faille verticale avec un glissement en décrochement, décrochement dextre ici dans la direction X1, ou sinistre dans la direction dans la direction 2 ici, et ça va être représenté par un tenseur de moment dans un référentiel orienté comme ceci, où tous les éléments sont nuls sauf 1, 2 et 2, 1. Où en plus il y a l'amplitude qui est le moment sismique que je vous ai présenté la dernière fois, qui est défini comme le produit du module de cisaillement, la surface de rupture, donc la longueur par la largeur sur la surface de rupture, et le déplacement moyen, donc cette quantité-là, sur la rupture. Je note au passage l'ambiguïté fondamentale dans l'interprétation des données sismologiques. On ne sait pas, à partir de la détermination du tenseur des moments, est-ce que la rupture s'est produite sur une faille dextre dans cette direction-là ou sur une faille sinistre. Dex, ça veut dire que quand vous êtes sur ce bord-là de la faille, l'autre bord se déplace vers la droite, et sinistre, c'est l'inverse. La faille de San Andreas, par exemple, c'est une faille dextre, en Californie. Alors, ça c'est dans un référentiel X, Y, Z, mais on peut aussi diagonaliser cette matrice en changeant, en faisant tourner le référentiel pour mettre en évidence les directions des axes principaux de compression P et de tension T, et obtenir une forme qui va être comme ceci, où vous allez avoir sur la diagonale une matrice diagonale, une matrice diagonalisée, avec donc une trace, la trace étant la somme des valeurs sur la diagonale nulle. Et ça, c'est pour un double couple parfait, c'est ce que je vous ai décrit par exemple pour ce mouvement sur une faille verticale avec mouvement horizontal, vous allez avoir une trace nulle. Et par contre, pour une explosion, vous allez avoir un tenseur des moments qui va avoir uniquement des éléments sur la diagonale et en plus des éléments égaux, puisque tout est symétrique. Une explosion parfaite va engendrer des ondes de la même manière dans toutes les directions, dans tout le volume. Si la source est mixte, on peut décomposer le tenseur des moments en une somme qui comprend une source isotrope, c'est-à-dire une explosion ou une implosion, parce qu'une implosion, c'est la même chose, mais avec des signes opposés, des signes négatifs, et donc une somme d'une source isotrope et une source pour laquelle la trace est nulle, parce que là, la trace n'est pas nulle. Et on peut décomposer cette partie-là aussi en la somme d'un double couple et ce qui reste, qui est ce qu'on appelle le CLVD, le Compensated Linear Vector Dipole. Alors là, j'ai trouvé un dessin, mais qui n'est pas très clair, j'ai remarqué, montrant comment la radiation se produit. Vous regardez dans toutes les directions comment vous allez avoir des compressions ou des dilatations. Dans le cas d'une explosion ou d'une implosion, vous allez avoir soit des compressions, soit des dilatations. Quand vous êtes un observateur éloigné, vous allez voir le matériel se compresser vers vous ou s'écarter de vous partout de la même manière. Pour un double couple, vous allez avoir un système en cadran. Avec un cadran, je vais l'illustrer encore mieux dans la diapo suivante, vous allez avoir des compressions, un cadran avec des dilatations, un cadran avec des compressions, un cadran avec des dilatations. Et le CLVD, c'est un schéma comme ça, un peu plus compliqué, avec des lobes sur, disons, aussi un lobe en plus dans la direction verticale. Et vous avez des plans de déplacement nul, qui, dans le cas d'une explosion, n'existent pas. Dans le cas d'un double couple, vous avez deux plans orthogonaux qui vont ensuite se décrire par projection sur cette projection utilisée donc de manière classique pour donner ces balles de plage par ces plans qui vont être orthogonaux. Et le CLVD va vous donner quelque chose qui va avoir plutôt des cercles dans cette représentation-là. Alors, encore une fois, pour bien comprendre, donc, vous avez une source explosive, vous avez donc des ondes qui vont être émises de la source dans toutes les directions, et vous allez voir partout le premier mouvement dans la même direction, qui devrait être tout le même. Et dans ce cas-là, par convention, quand c'est vers le haut, si on a bien mis les fils où il faut dans les sismomètres, il s'agit d'une compression et dans d'autres cas, une dilatation. Et donc, ça représente aussi bien une explosion qu'une implosion. Par contre, sur une faille comme celle de San Andreas, vous avez un mouvement, ça c'est la projection de la faille. La faille est disons, c'est le plan horizontal, donc la faille est perpendiculaire au tableau. Vous avez d'un côté de la faille déplacement vers la droite, de l'autre côté déplacement vers la gauche. Vous allez avoir des compressions dans ce cadran-là, comme ceci, et des dilatations. Hein, le mouvement va être loin. Si vous êtes un observateur ici, vous allez voir la roche s'écarter de vous, donc représentée comme ça, et inversement, ici, compression de nouveau et dilatation. Et ça va donner un schéma comme ceci, où je n'ai pas indiqué, mais vous aurez l'axe de compression qui sera au milieu ici du cadran en blanc, et l'axe de dilatation qui va être l'axe d'extension qui va être donc dans ces cadrans noirs. Juste pour donner un exemple de cas où on observe près de la surface cette composante CLVD importante, parce que dans les séismes ordinaires qui se produisent sur des failles, on n'a pas double couple parfait, mais on n'a pas de composante volumétrique importante et on n'a pas de composante CLVD très importante non plus. Mais dans le cas de certains séismes volcaniques, on peut observer des composantes donc CLVD, donc le complément du double couple dans la partie qui a une trace nulle, qui est importante. Et ici, c'est interprété comme étant dû à la rupture d'une faille en forme conique qui se produirait au-dessous de la chambre magmatique et dont la rupture serait due à la pression qui augmente dans la chambre magmatique lorsque la lave arrive par en dessous d'une source à grande profondeur. Alors, maintenant, revenons à nos séismes profonds. Qu'est-ce qu'on observe ? Alors, je vous ai dit qu'il y avait eu cet article en 1975 de Jevonsky et Gilbert qui avait proposé que le séisme de Colombie de 1970 présentait une composante implosive importante, donc compatible avec l'effet de la transition de phase, l'effet direct de la transition de phase. Mais dans les années qui suivirent, il y a eu un certain nombre d'études, et en particulier celle-ci de Kawakatsu en 1996, un chercheur japonais de Tokyo, qui a montré que sur la base d'études 19 très forts séismes, donc très forts de moments sismiques supérieurs à 10 puissance 19, donc magnitude 7, disons, et plus grande, qui a montré que pour tous ces séismes, ne trouvaient pas de composantes isotropes, hein, donc de composantes soit d'explosion ou d'implosion importantes, donc plus grandes que 1 sigma, ça c'est l'erreur de mesure, hein, donc insignifiante. Alors ici, il y a des symboles différents pour les plus gros séismes, et certains séismes profonds qui présentent une composante CLVD importante. Et quelle que soit la nature de ces séismes, quel que soit donc le caractère de ces séismes, il n'y a pas de composante implosive importante. Et ça, c'est les mesures donc de Jevonsky et Gilbert pour le séisme de Colombie et le séisme de Pérou qu'ils avaient étudié donc en 1974. J'avais dit 75, c'était 74. Alors, cet auteur aussi a montré, donc ça c'est ce qu'avait trouvé Jevonsky Gilbert, donc séisme de Colombie, séisme de Pérou, donc représenté par nos schémas représentatifs symboliques, enfin pas tout à fait symboliques, mais disons qui nous permettent de voir directement le mécanisme. Et donc, ils avaient obtenu une très grande. Donc là, ici, ils décomposent le tenseur des moments en différentes composantes. La composante double coupe est ici, et la composante isotrope est ici. Et vous voyez que pour les deux séismes, la composante isotrope était assez importante, pas vraiment négligeable, ni ici ni là. Disons que ça, c'est ça la conclusion de leur étude. 43,8% de composantes isotropes pour le séisme de Colombie et un peu moins, 20%, donc avec un signe moins pour indiquer l'implosion, pour le séisme du Pérou. Et par contre, Kawakatsu a repris ses études qui avaient été faites à partir de l'analyse des modes propres, des spectres de modes propres de la Terre, donc des données d'ondes de très longues périodes. Et quand ils ont repris, en fait, ils ont repris ces données, ils ont trouvé, eux, qu'ils pouvaient réduire la composante isotrope à moins de 2%. Et donc, ça, c'est le schéma correspondant. Ça, c'est l'article d'origine et le nouveau schéma dans l'article de Kawakatsu. Et donc, la composante isotrope était négligeable. Par contre, ils avaient une composante double coupe très importante. Bon, ça, c'est des composantes parce que ce n'est pas en cartésien, c'est en système sphérique, hein, de coordonnées sphériques. Donc, c'est Rθ, Rφ et θφ, les composantes, en prenant les angles donc, dans la définition d'un référentiel sphérique. Dans cette étude, Frolich, donc, dans son livre de 2006, a comparé les composantes isotropes telles qu'elles avaient été déterminées par Kawakatsu en 1996, donc la composante isotrope, l'amplitude de la composante isotrope par rapport à la composante double coupe dans une échelle logarithmique, ici, donc 0, 0, 1, 0, 1, 1, 10. Et donc les 19 séismes profonds étudiés par Kawakatsu, comparés à ce qu'on observe pour des explosions nucléaires, qui, elles, contiennent une proportion très grande de, naturellement, d'explosion, hein, pas implosion en général. Ce n'est pas parfait parce que ces explosions ont lieu, surtout les explosions souterraines, dans un milieu complexe et donc il y a aussi des composantes non isotropes qui vont apparaître, mais on voit quand même que celles des séismes profonds sont vraiment toutes petites en comparaison et inférieures à l'erreur de mesure qu'on peut avoir à notre époque. Alors tout ça, c'est très bien et donc on peut conclure. Par contre, il y a un article qui vient de paraître par mon collègue Amy Local qui a étudié le séisme d'Okhotsk, donc le plus gros séisme profond observé donc, depuis qu'on a des instruments fiables, donc ce séisme de 2013. Il l'a comparé à celui le plus gros séisme le mieux étudié jusque-là, celui de Bolivie de 1994, pour lequel on n'avait pas trouvé de composantes isotropes donc importante, et lui prétend dans cet article que le séisme de Okhotsk présente une composante implosive importante. Alors ça, c'est un article qui vient de paraître, et je pense qu'il va venir présenter ses travaux comme poster à notre workshop dans 3 semaines. C'est donc tout frais et donc encore pas bien digéré et difficile de dire encore si cette étude va survivre ou pas. En tout cas, disons, on peut conclure tout de même que la composante isotrope, si elle existe, elle n'est pas perceptible de façon robuste, excepté le dernier article de Docal. Hein, et donc, par contre, la composante CLVD, si elle existe, n'est pas forcément quelque chose de spécial au séisme profond. On en voit aussi un peu dans les séismes superficiels. Elle peut être due, non pas à un processus, processus lié directement, disons, à la façon dont se produit le glissement sur la faille, mais à une certaine complexité de la source. Par exemple, si vous avez des ruptures sur plusieurs failles, plus ou moins en même temps, dû au milieu dans lequel se produit le séisme, qui peut être très hétérogène, voire anisotrope, et donc lorsqu'on l'observe à grande distance, va donc perturber ou polluer, disons, la pureté du mécanisme double couple. On y reviendra à un moment ou à un autre. Alors revenons à l'idée Quand même de la transformation de phase, mais maintenant, cette idée de plutôt le déclenche, que la transformation de phase va déclencher le séisme sans être directement la cause. Donc cette idée que l'olivine puisse exister à l'intérieur de la zone de la plaque en subduction sous forme métastable, donc sous forme qui veut se transformer rapidement en spinelle, en phase spinelle si les conditions sont bien remplies. Et donc voilà, donc ça je vous rappelle simplement ce schéma à garder en tête. On s'attend à cause des variations de température, donc qui sont très chaudes à l'extérieur et de plus en plus froides à l'intérieur de la plaque, que s'il y a cette zone aura la forme d'une langue, donc de plus en plus étroite avec la profondeur. Et bon, si la zone ici est de 80 à 100 km d'épaisseur, cette zone, surtout à grande profondeur, sera assez étroite, hein, de moins de 20 km de largeur, peut-être, ces profondeurs-là. Alors, donc l'idée, c'est que le changement de volume et le dégagement de chaleur associé au cours de la transition de phase peut déclencher une instabilité dans un environnement de contrainte de cisaillement. Alors, ça a été proposé dans les années 80. Les auteurs principaux, c'est Steve Kirby et ensuite Green et Burnley, qui ont fait des expériences à haute pression et qui ont fait des expériences eux-mêmes dans le germanate de magnésium, hein, toujours, pour donc un système analogique à l'olivine dans le silicium, pour observer la transformation de l'olivine spinelle. Et ils ont proposé un modèle de sismogénèse à haute pression qui fait intervenir un modèle d'auto-organisation avec des fissures qui vont se raccorder et créer des zones de faille et qu'on appelle les anti-cracks pour les distinguer des cracks normaux des séismes superficiels. Ce genre de modèle peut expliquer des similarités, certaines similarités et différences entre les séismes superficiels et profonds, et souligne en particulier que ce genre de rupture ne peut se produire tel qu'ils l'ont observé dans un domaine étroit de température, en dehors duquel le matériau se comporte comme un matériau ductile, comme on conçoit à ces profondeurs et à ces pressions et températures-là. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est, selon eux, c'est ce qu'ils ont observé dans leurs expériences, c'est la formation de fissures en forme de lentilles qui sont remplies de phases spinelles, hein, donc de la matrice et de phases olivines. Et à l'intérieur de ces lentilles, au départ microscopiques, la phase spinelle se forme avec des grains de très petite taille et elle se forme. Ce qui est donc intéressant, elle se forme dans une direction perpendiculaire ou quasi perpendiculaire à l'axe de compression maximum. Alors, voici c'est de leur article de 1989. En fonction de la pression et de la température, qu'est-ce qu'ils ont observé ? Ils ont observé trois régimes différents. Donc, la transition de phase, ici, Olivine-Spinel, et ici, ils sont donc dans le domaine qui pourrait correspondre à celui des séismes profonds, avec un domaine étroit de température où ils ont observé l'apparition de ces fissures et de ces failles. Donc ça, c'est des dessins montrant le matériau qu'ils observent. Ça, c'est le plus intéressant. Ils voient ces lentilles de spinel autour. Le noir, c'est de l'olivine. Et le blanc, c'est du spinel. Il y a aussi du lorthopyroxène quelque part. Et elles sont dans cette direction-là, principalement, vous voyez, et la direction de compression maximale est perpendiculaire. Alors, ce qu'ils proposent, donc, c'est qu'à cause de la diminution de la taille des grains au cours de la transformation, ils vont engendrer des instabilités qui elles-mêmes localisées, mais qui vont pouvoir donner lieu à des séismes. Et donc, ils vont contraster la sismogénèse classique, donc une ouverture d'une fissure de mode 1, donc en extension. La fissure est en extension, on compresse et donc on ouvre des fissures dans la direction opposée, qui vont donc donner lieu à des zones de faille plus ou moins parallèles à la direction de compression. Et par contre, dans ce cas-là, le cas lié à la transformation de phase, on a une situation un peu différente où l'axe de compression maximale est dans cette direction-là, donc plutôt que par là, et on a une formation de lentilles de cette phase avec, qui va croître parce qu'on va avoir la compression très forte concentrée au bord. Et ça va donner lieu à des fissures qui vont se raccorder puisqu'elles vont grandir grâce à cette concentration de contraintes et donc vont avoir une orientation différente par rapport aux axes de compression. Et c'est ce qu'on appelle l'anticrack. Voilà. Alors, cette explication est attrayante pour les séismes profonds, donc, puisque c'est là qu'on s'attend à voir de l'olivine sous forme donc métastable, à pas tellement à plus faible profondeur, même 350 km, c'est déjà assez... assez conservateur comme profondeur. Et c'est attrayant parce que ça pourrait expliquer la profondeur maximale des séismes autour de 680 km. On peut imaginer que cette olivine en état métastable ne peut pas subsister à de très très grandes profondeurs et donc ça s'arrête à un moment donné. Mais on peut se demander comment cela peut expliquer la présence de très gros séismes loin du centre, du cœur de la plaque en prolongement de l'axe de plongement, comme par exemple ici les séismes qui ont eu lieu cette année. Bon, ce n'est pas très clair ici, mais je vous l'avais montré la dernière fois. Vous avez cette zone de subduction qui est illuminée par la sismicité, donc au Fiji-Tonga ici, hein, donc on est dans le sud-ouest du Pacifique, fonction de la profondeur, et puis. La plaque est manifestement déformée, mais vous avez un de ces séismes, par exemple, qui se trouve loin de ce cœur de plaque. Alors, il faudrait que l'olivine subsiste sous forme métastable, non seulement ici, dans cette région-là, mais qu'elle tourne aussi jusqu'à grande distance. Donc dans cette zone-là, ce qui paraît un petit peu qui me pose à moi un peu de difficulté en tout cas. Alors ceci dit, c'est une hypothèse intéressante et qui a de la valeur. Et donc les sismologues ont essayé de voir si on peut mettre en évidence cette langue d'olivine métastable donc à l'intérieur de la zone de subduction. Alors, il faut pour ça des études très précises, des études à haute résolution. Et l'étude peut-être la plus, la plus remarquée ou la plus convaincante en un sens, c'était celle, encore une fois, de Katsu et son collègue Yoshioka en 2011, qui a profité de l'existence d'un réseau très très dense de sismomètres sur les îles du Japon, qui était le Japon a toujours été très en avance du point de vue de l'instrumentation sismique, puisqu'ils ont toujours eu des séismes importants. C'est une considération importante pour le peuple japonais. Et il y avait eu le séisme comment s'appelle ce port en 1995 le séisme de Kobe qui a donc ravivé l'intérêt qui a amené beaucoup de crédit pour la géophysique, en particulier la sismologie, et donc ils ont instrumenté à fond les îles japonaises en instruments sismiques, en instrument fond de puits, en station GPS pour mesurer la déformation. Et la même chose s'est produite, bien sûr, après le séisme de 2011, le séisme de Fukushima, qui a, lui, donné lieu à une instrumentation qui est encore en développement, mais qui est très impressionnante, au large des côtes du nord du Japon. Alors, ça, c'est un aparté. Mais donc, c'était pour expliquer ce qu'on voit ici. Ici, ce qu'on voit, c'est le résultat d'une étude donc de très haute résolution d'ondes converties à des discontinuités. Donc, vous avez des stations à la surface de la Terre. Là, c'est une coupe. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment cette coupe-là, parce qu'il n'y a pas énormément de stations en fond de mer, mais il y a les volcans ici, les stations sismiques qui sont indiquées par des points noirs, et sous chaque station, vous regardez les ondes qui arrivent de loin, les ondes télésismiques, et quand les ondes P télésismiques, les ondes de compression télésismiques, quand elles rencontrent une discontinuité forte dans la structure élastique, elles ont la possibilité, elles vont être déflectées d'abord, elles vont changer de direction, suivant les lois de l'optique, comme les lois de l'optique, mais elles peuvent aussi avoir la possibilité d'être converties en ondes de cisaillement. Et ça a donné lieu à une technique qui s'appelle la technique des fonctions récepteurs, receiver functions en anglais, qui permettent donc d'imager la localisation de ces discontinuités de manière assez précise. Alors ça ne donne pas la variation absolue des vitesses, mais ça donne la position des discontinuités, leur variation latérale. Alors bien sûr, il faut tenir compte des variations de vitesse dans le volume pour faire ça de manière précise. Mais disons que, voilà. Alors donc ici, beaucoup, beaucoup de stations. Dans chaque station, ils font un profil de cette détection de conversion. Et on peut ainsi, en les alignant, voir les discontinuités principales. Ici, on les voit très bien, celles de 410 km. Ici, et celles de 660, elles sont vraiment très clairement visibles. Elles correspondent à des augmentations de vitesse quand on s'enfonce, hein, et ça, c'est indiqué par la couleur rouge. Ces couleurs n'indiquent simplement est-ce qu'on passe de vitesse lente à des vitesses rapides ou de vitesse rapide à vitesse lente. Donc, ensuite, ici, ce qu'on voit en rouge en haut, ça doit être le mot. Donc la limite entre la croûte et le manteau. On voit d'autres discontinuités. Mais vous voyez cette région ici où les discontinuités semblent être perturbées. On voit une déflexion de la discontinuité de 660 km. Ici, c'est un gros plan. Enfin, ce n'est pas vraiment un gros plan, mais c'est l'échelle en profondeur a été dilatée pour mieux mettre en évidence cette déflexion. Alors, comme la discontinuité de 660 km est associée avec une transition de phase endothermique, on s'attend à ce que si on traverse une zone froide, cette discontinuité va avoir lieu à plus grande pression, donc à plus grande profondeur. Donc ça, c'est bien dans la bonne direction. Par contre, ça couvre une distance de 500 km qui est plus que ce qu'on pense être l'épaisseur de la plaque. Mais en tout cas, vous voyez, on distingue peut-être un peu aussi que cette discontinuité-là est élevée ici, mais elle est très perturbée. Et encore une fois, puisque celle-là est exothermique, on s'attend que si on est dans une zone froide, hein, la zone froide qui serait la zone de subduction qui est ici marquée, dans cette coupe qui correspond à peu près à la même région, mais ça c'est un modèle tomographique qui montre les vitesses dans le volume, si vous voulez, c'est tout à fait différent comme image et comme convention. Le bleu indique des vitesses plus rapides, donc plus du matériau plus froid, et le rouge indique des vitesses plus lentes, donc du matériau plus chaud. Le blanc, c'est la zone de les points blancs, c'est les séismes. Qu'on peut suivre ici jusqu'à vers 410 km de profondeur, correspond bien à cette région-là. Et encore une fois ici, on voit encore, ça c'est encore les séismes. Et ils mettent en évidence une zone ici qui serait donc à l'intérieur de la plaque et qui correspondrait distille au bord de la zone d'olivine métasable. Ici, ce serait donc la transformation de phase serait donc aurait une orientation, inclinée par rapport à l'orientation moyenne à l'extérieur. C'est ça l'observation. Ils ont appliqué une technique très sophistiquée où ils ont pu, montrer vraiment par comparaison avec la tomographie qu'on était bien à l'intérieur de la plaque et pas d'un côté ou de l'autre, que cette zone correspond bien à l'endroit où il y a les séismes. Et donc l'interprétation ici, c'est que vous avez donc dans cette région-là, on voit là, on voit bien ces horizons, un horizon qui correspond à une diminution de vitesse et un qui correspond à une augmentation de vitesse, et ce seraient les bords de la langue d'olivine métastable. Alors, et donc l'interprétation, c'est celle-ci, c'est que vous avez donc une discontinuité de 160 km qui est déprimée, avec une zone de subduction qui s'étale donc horizontalement au-dessus de cette discontinuité-là. Et donc, vous avez une largeur plus grande que celle de la largeur de la plaque à plus faible profondeur. Pour la discontinuité de 400 km, elle est un peu surélevée sur les bords, puisque la température diminue à l'intérieur de la plaque, mais vous avez en même temps cette langue d'olivine métastable qui donne lieu au séisme, au moins les séismes profonds, parce que bien sûr les séismes superficiels et peut-être intermédiaires ne correspondent pas à cette géométrie-là. C'est simplement un modèle thermique de la plaque. Je vous en ai montré un autre. Celui-ci montre une plaque un peu plus complexe dans cette région, avec étalement au-dessus de la discontinuité ou autour de la discontinuité de 160 km, qui est un résultat qui provient de l'interprétation des modèles tomographiques. Alors, peut-être observation de l'olivine métastable, difficile, observation difficile, qui n'a pas été vraiment reproduite de manière systématique, depuis. C'est encore à faire. Par contre, la question qui se pose, c'est cette question de largeur. Est-ce que cette langue d'olivine métastable, elle doit être très étroite à cette profondeur-là? Et on peut donc regarder les gros séismes et essayer de déterminer la surface de rupture et voir si c'est compatible avec une surface de rupture étroite, comme ça, dans la zone de transition. Donc c'est ça, est-ce que la largeur de la rupture sismique est compatible avec l'hypothèse de l'olivine métastable? Et pour cela, il y a des études, là j'en reparlerai, mais on essaie de déterminer les dimensions latérales de la source. Ça a été fait, ça a pu être fait pour les gros séismes à partir des années 90, où on a eu assez d'enregistrements sismiques de bonne qualité pour le faire. Et en particulier pour les séismes de Bolivie et de Tonga, on a pu voir que cette zone était plus épaisse que ce à quoi on pourrait s'attendre s'il s'agissait de rupture dans l'olivine métastable, au moins si la plaque n'est pas déformée, qui pourrait bien sûr introduire des complications. Et donc, dans ce cas-là, ça montrerait que la rupture n'est pas seulement due, ne peut pas être seulement due à cette transformation de phase métastable. La Bolivie 1994, les sismologues ont aussi montré en étudiant la source sismique que la vitesse de rupture était très lente, environ 20% de la vitesse des ondes S, qui est relativement lent pour un séisme comparé à des gros séismes superficiels. aussi, donc cette étude de Kanamori et al., je ne sais pas si je vais la regarder en détail, mais il a montré que le rendement sismique était faible. Le rendement sismique, c'est le rapport de l'énergie radiée sismiquement à l'énergie totale, et ce qui dégageait, ce qui veut dire qu'une grande partie est dégagée non pas sismiquement, mais sous forme de, disons, de friction et donc de dégagement de chaleur. La chute de contrainte était importante, et donc ils ont proposé que le processus de rupture est contrôlé par de la fusion induite par le cisaillement. Une fois la rupture initiée, ils ne disent pas comment on l'initie, mais c'est la fusion qui l'accompagne va encourager le glissement qui va conduire à un séisme géant. C'est un peu comme, si vous voulez, ce qui se passe quand vous avez un skieur qui skie et vous avez une couche de glace de neige qui va fondre, une couche très très fine de neige qui va fondre au passage du skieur dû à son passage et aux contraintes qu'il implique. Mais bon, ceci, on verra peut-être, j'aurai le temps de montrer des exemples plus récents, que en fait, pas tous les séismes ont ces caractéristiques. Ce qui est difficile, alors, il faut voir une caractéristique très, très spécifique des séismes profonds, c'est qu'ils ont très peu de répliques. Certains n'ont pas de réplique, certains n'ont qu'une seule réplique, et la proportion de ceux qui ont plusieurs répliques n'est pas énorme, surtout ici vous avez deux représentations de ceci, donc la fraction des séismes qui ont des répliques, lesquels ont une seule réplique, donc ici 15%, lesquels ont plusieurs répliques, environ 40%, donc, et quand on va en profondeur, ça diminue. Ici, donc, seulement jusqu'à 200 km de profondeur. Ici, une autre façon de représenter le nombre de répliques. Il est normalisé par rapport à la taille du séisme pour avoir quelque chose de comparable. Et on voit que il n'y a pas énormément de répliques. Or, c'est la zone de réplique qui nous permet, est une façon de, disons, d'illuminer la surface de rupture, et donc ça rend les choses plus difficiles pour les séismes profonds. Les ruptures sont aussi complexes. Ici, c'est pour le séisme de Bolivie de 1994. Ce qu'on appelle la fonction temporelle de la source, c'est donc, ça montre comment la rupture a évolué dans le temps. Donc on a reprojeté les enregistrements sismiques vers la source et on a regardé comment ça se produit, comment la rupture évolue dans le temps. Et on observe souvent dans ces séismes profonds plusieurs épisodes, donc sur une durée ici de 40 secondes, donc assez courte, avec plusieurs épisodes énergétiques qui pourraient correspondre à des ruptures qui ne seraient pas nécessairement dans le même plan de faille, ce qui est bien sûr assez difficile à voir à très grande distance. Et des études de Bolivie, ici deux études différentes montrant les dimensions, enfin, le glissement sur la faille en fonction de sur le plan de faille, ici qui est... Alors, il y a encore cette histoire de plan de faille vertical ou plan de faille plus ou moins vertical, plus ou moins horizontal. J'ai omis de vous dire qu'en général, dans les séismes profonds, vous avez un plan de faille presque vertical et le plan conjugué presque horizontal. Et à cause de l'ambiguïté qu'on a, on est difficile de déterminer si la rupture se produit sur le plan vertical ou plutôt sur le plan horizontal. Il y a des indications... Je pense de plus en plus nombreuses que c'est plutôt le plan de faille quasi horizontal qui est le vrai plan de faille, mais ça n'est pas. Il y a encore pas mal de discussions à ce sujet. Mais ici, donc, ça a été représenté sur le. On a choisi le plan de faille horizontal qui donne explique les données un tout petit peu mieux que le plan de faille vertical. Et vous voyez une dimension de rupture, tout ce qui est bleu. ici donc déplacement important hein, de plusieurs mètres en bleu ici 4-5 mètres qui enfin environ une dimension de l'ordre de 50 km sur 50 km un peu plus même. Ça c'est une autre étude un peu similaire mais qui arrive qui est similaire qui est représentée un peu différemment mais qui montre aussi que la rupture a atteint ici des dimensions de l'ordre de 50 km sur 50 km, qui est plus que ce qu'on peut imaginer avec la zone de... Alors, je vais passer, je vois que j'ai été un peu lente. Je ne vais pas vous soumettre à ces calculs, parce que j'avais prévu, mais simplement pour dire que... pendant le glissement, une fois que vous avez initié le glissement, la surface de la faille peut s'échauffer et peut conduire jusqu'à la fusion. Et bon, il y a eu des estimations théoriques permettant de montrer que vous pouvez échauffer la surface de la rupture de 1000 degrés Celsius ou plus, qui peut être suffisant pour la fusion. Et Mais en fait, il y a des observations dans les roches, dans certaines zones, où on observe la présence de pseudo-tachylites, qui sont donc des produits de fusion dans les zones de faille. C'est une roche qui est très comme du verre, quoi, qui est amorphe. Donc, on n'observe pas très souvent, mais on observe quand même dans la nature. Donc, ceci n'est pas forcément impossible. D'ailleurs, n'est pas impossible non plus dans le cas des failles superficielles. Une fois que la rupture est utilisée, la fusion réduit la friction et favorise le glissement de la faille. Alors, Kanamori et Al a regardé ça. Ils ont fait ces calculs. Ils ont documenté le caractère dissipatif du processus à la source du séisme de Bolivie. Un rendement sismique de 0,036, donc très peu de radiation sismique par rapport à la disons, chaleur dégagée. Une vitesse de rupture lente, 1 km par seconde, j'avais dit 2, je crois, 20% de la vitesse des ondes S. Une énergie thermique dégagée équivalente à celle de l'éruption volcanique du mont St. Helens de 1980. Et donc, ils en ont déduit que c'était suffisant pour faire fondre une couche de 31 cm d'épaisseur et donc, a fortiori, une couche plus fine. Bon, ça, j'ai déjà dit. Donc là, je présente les calculs, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Si ça vous intéresse, ce sera mis en ligne. L'important, c'est de voir que ça n'est pas... que ça n'est pas, disons, complètement impossible de pouvoir avoir une... Ici, vous avez une augmentation de la température qui tient compte de la température de fusion, la chaleur latente de fusion, etc., que vous pouvez avoir une zone sur une zone toute petite. Ici, ce serait l'épaisseur donc, de la zone de fusion. Si vous avez des augmentations de température... qui pourrait correspondre à de la fusion avec une épaisseur de fusion toute petite qui serait certainement pas détectable du point de vue sismique. Alors nous gardons à l'esprit ces différentes interprétations possibles. Je voudrais parler pour terminer un peu de cette hypothèse de déshydratation et donc de fragilisation par déshydratation. Simplement pour vous rappeler, ce que j'ai dit au début, c'est que donc pour avoir une fracture, vous avez à respecter la condition de Coulomb et que si vous avez des fluides, la présence de fluides dans la roche va... réduire la contrainte normale, la contrainte normale va être réduite par la pression interstitielle, donc la pression due à la présence du fluide, et donc ça va permettre une rupture a des disons, contraintes de cisaillement moins fortes. Et donc ça nous conduit à regarder la possibilité que les plaques en subduction contiennent de l'eau, au moins jusqu'à une certaine profondeur. Et donc l'idée, c'est que ces roches hydratées qui ont été hydratées par contact avec l'eau dans l'océan, donc au moment où tout au long de la, de la progression de la plaque vers la zone de subduction et au moment de rentrer dans le manteau, et ces minéraux donc hydratés vont à un moment ou à un autre, à une certaine pression, une certaine température, relâcher ces fluides, et à ce moment-là, la fracture peut se produire à des pressions plus hautes et des températures plus hautes que dans une roche sèche. Et cette explication est celle qui est préférée actuellement pour les séismes de profondeur intermédiaire. Alors ici, simplement, je reviendrai, je pense que je vais passer beaucoup de temps là-dessus la semaine prochaine. C'est simplement un diagramme de phase qui présente cette possibilité. Vous avez ici, en fonction de la température et de la profondeur augmente dans cette direction-là, cette fois-ci, avec la pression équivalente de l'autre côté. Les symboles, donc les triangles et les losanges, sont la zone où on a des séismes de profondeur intermédiaire. Et vous avez le diagramme de phase montrant les transitions de phase ou la déshydratation de phase hydratée, la phase l'antigorite étant le silicate hydraté de cette formule-là, qui va se déshydrater pour donner les silicates plus les secs, hein, qui ne contiennent plus cette combinaison OH, l'hydroxyle, la phosphérite, l'anstatite, le talc. Alors ça, c'est des expériences qui ont été faites dans une période de haute pression et de température, qui ont été faites sans présence de fer, qui changerait un peu les choses, mais qui vous montre qu'on est bien dans le domaine de profondeur et de température qui correspond au séisme profond. Et je vois que j'arrive à la fin, mais je vais vous donner un avant-aperçu d'une observation importante concernant les séismes intermédiaires. C'est la présence de zones sismiques de Wadati-Benioff doubles. Alors ça, on n'en a pas du tout parlé encore, mais ces observations qui ont aussi été faites pour la première fois au Japon grâce au fait qu'il y a toujours eu plus de stations sismiques au-dessus de zones de subduction du Japon qu'ailleurs, dès les années 70, avec une localisation rendue possible assez précisément de ces séismes donc de profondeur intermédiaire, on s'est aperçu qu'au moins au Japon, en fait, ces zones de Wadati-Benioff étaient composées de deux zones séparées, hein, une zone au-dessus et une zone en dessous, parallèle à la direction de plongement de la plaque, ce qu'on appelle les zones de donc double. Ça n'est pas la seule observation. En plus, l'état des contraintes est différent dans la zone supérieure et dans la zone inférieure. Avec la zone supérieure, l'état des contraintes est un état où la compression maximale est dans la direction du mouvement de la plaque. Et dans la zone inférieure, c'est les axes d'extension qui est dans la direction de plongement de la plaque. Et ceci a été interprété, au moins au début, disons que l'interprétation qui est venue à l'idée, c'est que quand vous avez votre plaque qui plonge, elle est déformée, hein, elle doit passer de la position horizontale à une position inclinée. elle se plie, elle se déforme, et arrivée à une certaine profondeur, elle reprend une direction assez droite, quoi, assez plane. Et donc, cet état de contrainte pourrait correspondre au redressement de la plaque, hein, unbending en anglais, qui pourrait donc donner lieu à de la compression donc dans la partie supérieure et à de l'extension dans les parties plus profondes de la plaque. Alors, je pense que je vais arrêter là et je reprendrai ça parce que c'est un sujet assez fascinant. On a bien sûr observé ça non seulement au Japon mais dans d'autres régions du monde et je vous donnerai un peu plus de détails intéressants sur le comportement de ces zones doubles de Wadachi-Benioff. Voilà, je vous remercie.